Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Votre Coach Web. Alors j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'Amazon. J'ai un petit peu chamboulé mes plans parce que vous avez vu qu'Amazon a racheté une société qui s'appelle Whole Foods, qui est en fait une chaîne de magasins bio. C'est un peu comme s'ils avaient racheté, on va dire, Naturalia ou Biocoop en France. Alors Amazon c'est une société qui fait souvent peur à beaucoup de gens, mais alors moi j'en suis client premium, enfin prime comme on dit maintenant. Et en fait je voudrais rebondir sur cette actualité pour vous rappeler ou vous expliquer, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais les quatre grands piliers qui font la culture d'Amazon. Et ces quatre grands piliers, en fait, alors c'est pas une grande enquête ni rien, c'est pas un secret, c'est Jeff Bezos, le créateur d'Amazon lui-même, donc son PDG, qui les raconte et qui les dévoile même dans un pitch qu'on peut trouver en... C'est une vidéo de 2009, en fait, qu'il avait enregistrée à l'époque pour les salariés de Zappos. Alors Zappos, c'est une société de chaussures, de vêtements, que Amazon avait racheté $1 milliard. C'était la plus grosse acquisition de l'époque, et qui restait la plus grosse acquisition jusqu'à maintenant. Et en fait, les salariés avaient peur de se faire croquer, alors plus eux, ils étaient à Las Vegas, Amazon est à Seattle, etc. Donc ils avaient un petit peu peur de se faire croquer par la machine Amazon, etc. Et en fait, il fait une vidéo pour leur expliquer quelles sont les quatre grandes leçons qu'il a apprises, lui, Jeff Bezos, en lançant Amazon, en développant Amazon tel qu'il était à l'époque en 2009. Et en 2009, c'était pas encore le mastodonte aussi gros que ce que c'est maintenant. Alors, bon, je vous mettrai le lien de la vidéo dans les notes de l'émission. La vidéo, elle est pas belle, le son est pas top, il y a du souffle dans le micro, etc. Puis c'est marrant de voir Jeff Bezos qui finalement ne semble pas tant à l'aise que ça, etc. Et puis il a un petit paperboard dans lequel il dévoile ses quatre grands piliers. Alors, je vous donne les quatre grands piliers, parce que je trouve qu'en fait, ils sont très intéressants, parce que on peut en tirer, pour nous, qui sommes des petits entrepreneurs, des créateurs de contenu, des fois souvent même des débutants, quelques leçons intéressantes. Et la première, en fait, le cœur de tout ce que raconte Jeff Bezos, c'est son obsession pour ses clients. Il est obsédé par ses clients. Et en fait, il n'est pas obsédé par ses compétiteurs. Alors, c'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ce que font ses compétiteurs, etc., bien sûr, mais ce qu'il obsède avant tout, c'est la satisfaction de ses clients, c'est que ses clients soient satisfaits, puissent même lui faire des remontées d'informations, n'attendent pas au téléphone ou quoi que ce soit. Alors, il raconte, par exemple, cette obsession quand il a lancé Amazon au début dans son salon avec... le site tenait à peine la route. Il y avait à chaque fois qu'il y avait une commande, il y a une petite cloche qui sonnait. Et en fait, il a eu bien du mal à croire quand la première commande d'un étranger, comme il le dit, est passée. Parce qu'au début, bien sûr, c'était les commandes des amis, de la famille, ce qu'on appellerait la love money. Hein. Je vous l'ai dit l'autre jour, vos premiers fans sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou partout, vos premiers fans, vos premiers suiveurs sont toujours des gens qui sont souvent vos amis proches, la famille, etc., ceux qui vous aiment bien et qui veulent vous aider. Mais petit à petit, il faut passer ce cap-là. Et donc, lui, raconter cette histoire de la cloche, alors ça fait des années qu'il ne doit plus y avoir de cloche qui sonne chez Amazon, imaginez sinon le bordel que ça peut être. Mais ça démontre en fait la culture que le client a été placé dès le départ, dès le lancement de l'entreprise. Et en fait, ça va très loin pour Jeff Bezos. C'est parce qu'il avait... on a eu des livres dans lesquels on a su, par exemple... qu'il a une habitude, c'est de, dans les réunions importantes, il rappelle à ses interlocuteurs la place du client en lui attribuant une chaise. C'est-à-dire qu'en fait, il met une chaise et il dit, là, c'est la place, c'est le siège pour le client dans ces réunions importantes. Même avec des grands groupes, hein, on sait par exemple que dans des négociations avec Toys R Us, il le faisait. C'est-à-dire que pour montrer que le client est au cœur de la stratégie d'Amazon, tout simplement, il leur réserve une place à la table de toutes les grandes réunions et autres. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Il y a un autre truc aussi qui est assez connu, mais c'est pas le seul qui le fait. C'est, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez écrire un mail à Jeff Bezos, c'est jeff@amazon.com. Et normalement, il le lit. Et en fait, quand il le lit et qu'il le fait suivre à ses équipes avec un petit commentaire, d'un coup, tout Amazon se met en branle pour arriver comment dire, à satisfaire ce qu'a repéré le Big Boss hein, là-dedans. Et en fait, il y a même des. On sait par exemple que si des clients sont plaints de trouver certains produits, certaines promotions, etc., il a fait des actions directement et même à l'encontre, par exemple, de ce qu'avaient préconisé ses équipes marketing. Il les fait un petit peu enrager, etc. Bon, il y a une anecdote aussi qui est marrante, c'est que sur le temps d'appel, etc., il avait pris lui-même le téléphone pour appeler un client pour vérifier que le temps d'appel était bien 30 secondes, comme lui disait le responsable des appels, et il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus long, etc. Donc voilà, lui, sa pensée première, c'est le client, le client, le client, le client. D'ailleurs, la vidéo de Zappos est intéressante, c'est parce que s'il a racheté Zappos, bon, bien sûr, il y a le chiffre d'affaires, la marque, c'était, mais c'est une marque qui était d'abord associé à la culture du client. Et dans la culture du client de chez Zappos, il y avait à l'époque un truc qui était redoutable, c'est que vous pouviez acheter des... Si vous achetez une paire de chaussures, vous avez un doute sur la taille. Au lieu d'acheter, vous dire, bah tiens, j'achète cette taille-là, etc., vous disiez, bah vous achetez là, vous pouvez acheter 2-3 paires, et puis vous gardez celle qui vous plaît, et puis vous renvoyez les autres, ou vous renvoyez tout, etc. Donc en fait, il avait enlevé le problème à l'époque, alors qui paraît maintenant... Enfin, logique, parce que les Zalando, les Spartoo et tout, vous trouvez ça aussi ailleurs. Mais qui était de dire, et qu'à l'époque, là je parle d'une vidéo de 2009, hein, donc vous voyez, on remonte déjà loin. À l'époque, Zappos, le truc c'est de dire, bah, essayez, et puis si ça vous plaît pas, vous renvoyez tout, c'est gratuit, on vous fait rien payer, etc. On vous rembourse tous les frais de réexpédition. Mais c'est vous qui devez choisir, et si vous êtes entre deux tailles, bah vous prenez deux tailles, vous gardez celle qui vous va, etc. Voilà, ça c'était la culture client qu'avait mis en place Zappos à l'époque, et que Jeff Bezos, sur laquelle il est très attaché. Le deuxième pilier d'Amazon pour Jeff Bezos, c'est inventer. C'est-à-dire qu'en fait, le truc de Jeff Bezos, c'est un ingénieur, et lui, il croit qu'il y a à la résolution des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut chercher à le résoudre, et il faut mesurer les résultats. Ça, c'est une démarche typiquement, c'est pas une démarche artistique, hein, c'est vraiment une démarche très, très, très ingénieur. Enfin, un ingénieur, c'est quelqu'un qui apprend à réfléchir sur des problèmes, et donc lui, en fait, il le résout un petit peu là-dedans. D'ailleurs, il avait un truc qui était... Alors, il n'était pas d'accord avec Steve Jobs sur pas mal de trucs, parce que... Enfin, ou alors, il s'estimait complémentaire, parce que, bon, par exemple, on dit souvent, Steve Jobs, bon, il choisissait de vendre des produits très chers, et Jeff Bezos considère toujours que quand Apple vend un produit très cher, ça fait un appel d'air pour que des gens derrière puissent se placer sur des produits moins chers, vous voyez, et créer un appel d'air là-derrière. Mais en fait, ils ont un point commun, c'est que Steve Jobs croyait assez peu au marketing, en tout cas quand il s'agissait de lancer un produit, c'est-à-dire qu'on dit « ouais, c'est Apple, c'est que du marketing, etc. » Mais en fait, l'idée de Steve Jobs, c'est quand même d'abord de dire bah, « quel est le téléphone ou l'ordinateur ou le logiciel que j'aurais envie que mon client utilise, que j'ai envie d'utiliser, etc. » Et donc, il se place d'abord là-dedans. Alors, vous savez, on a même des langages qu'on dit chez les développeurs, chez d'autres, hein, c'est il faut utiliser soi-même ses produits, etc. Mais Jeff Bezos, il va un petit peu plus loin. Alors, il a ce qu'on appelle un Jeffisme, c'est-à-dire c'est toutes les petites phrases de Jeff Bezos. Il y en a une qui était intéressante que je vous ai notée, c'est vous pouvez trouver votre chemin hors des sentiers battus, out of the box, comme il dit, uniquement si vous êtes convaincu que vous le pouvez. Donc là, c'est la démarche, c'est pas de dire bah voilà, on peut inventer, etc. C'est non, il faut être convaincu qu'on puisse inventer des choses, mais ces choses-là, il faut les inventer pour les clients. C'est-à-dire qu'en fait, il faut écouter les clients, mais en fait, les clients ne vont pas tout dire, donc on va les écouter et on va essayer de trouver des solutions qui répondent à leurs problématiques. Et on va inventer les produits à leur place, mais c'est des produits que bah, nos clients devraient apprécier parce que quelque part, ça va résoudre leurs problèmes. Alors, il a un troisième pilier, c'est le penser à long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais reprocher à Amazon, etc. C'est-à-dire qu'il a une vision très très long terme de son entreprise. D'ailleurs, qui ferait beaucoup de bien à beaucoup de nos dirigeants politiques, etc., qui ont une vision des prochaines élections, des prochains mois, etc. Alors que lui, il a une vision, et c'est les visions que les entreprises essayent d'avoir et que beaucoup d'entreprises essaient d'avoir, qui est de dire, mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, qu'est-ce qui se passe si j'investis aujourd'hui, etc. On a beaucoup manqué Amazon parce qu'Amazon avait pris Jeff Bezos avait pris le parti de dire de tout réinvestir directement, au lieu de verser des dividendes à court terme aux actionnaires, lui, il préférait les investir dans des choses qui allaient rapporter dans du long terme. Et son idée, c'était toujours de faire ça. Alors, un de ses jeffismes dans le domaine, c'était de dire qu'en fait, une compagnie qui est obsédée par ses clients et qui invente pour eux doit penser à long terme. Parce qu'en fait, pendant les premières années, pendant 5-7 ans, elle rapporte pas beaucoup de dividendes à l'entreprise elle-même, ni en fait aux actionnaires, mais elle rapporte souvent des dividendes immédiatement pour les clients. Voilà. Et voilà. Donc lui, il privilégie d'abord les dividendes pour les clients, donc ce que son invention, ce qu'il fait dans le site rapporte aux clients, plutôt que de voir ce que ça va rapporter aux actionnaires. Et ça, c'est vraiment sa pensée à long terme. Alors, il le dit, hein, ça nous amène à pas être compris tout de suite. Alors, je pense qu'il y a un cas qui a dû laisser beaucoup de traces, c'est le Kindle. Alors maintenant, on voit le Kindle comme un beau succès, mais il faut voir qu'au lancement du Kindle, tout le monde allait dire que c'était moche, que c'était pas un iPhone, que ça allait planter, que personne n'achèterait un truc cher pour lire un livre. Et donc, il a fallu s'accrocher dessus. Mais en fait, il le dit d'une manière assez. Il le dit dans la vidéo. Il le dit si nous on pense que nous avons raison, nous continuerons. Si nous pensons que nous avons tort, nous changeons. Mais en fait, son idée, c'est ne pas céder à des pressions qui forcent à agir à court terme. Voilà, son idée, c'est ça. Alors, il y a un endroit aussi où il a vu très long terme. C'est toutes ces solutions de cloud computing hein, dont on parle beaucoup, mais il faut voir un truc, c'est que c'était d'abord un mouvement interne dans son entreprise, parce que pour arriver à innover, mais un petit peu contre ses équipes, hein, qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais en fait derrière, ensuite, il y a eu des années de développement pour arriver à sortir ce que maintenant on connaît sous le cloud computing, etc., qui permet à Amazon de générer beaucoup d'argent, mais qui n'a pas tout de suite été compris en se disant mais pourquoi est-ce que cette entreprise va dans ce domaine-là? Et les mouvements, en fait, sont pas toujours compris, mais lui, il les applique aussi sur un quatrième pilier. Enfin, il y a un quatrième pilier qui est important pour à retenir chez Amazon, c'est que toujours, il considère que chaque jour est toujours le premier jour de quelque chose. Et donc, en fait, il y aura toujours des inventions dans le futur, toujours plus d'inventions pour les clients, mais toujours aussi des nouvelles raisons d'être obsédé par les clients. Voilà, c'est que chaque jour, faut être... il faut avoir cette obsession-là du client. Et en fait, chez Jeff Bezos, ne court pas forcément après les dernières innovations. En tout cas, pour son cœur de son activité. Parce que bon, on a beaucoup rigolé quand il parlait de faire de la livraison par drone, etc. Et on a dit, bah tiens, il court après l'innovation, ou sur des Kindle, sur plein de choses. Hein. Mais quelque part, quand on regarde un petit peu le fonctionnement d'Amazon, on se rend compte qu'il investit un petit peu différemment, notamment pour une raison qui est assez simple, ça a été expliqué dans un bouquin qui s'appelle Google Ads, où en fait il a des propos assez clairs sur le sujet, et souvent, voilà ce qui. Alors je vous dis exactement ce qu'il dit. Il dit la question la plus courante que l'on me pose est qu'est-ce qui va changer dans les 5 prochaines années? Et il dit c'est la mauvaise question, il dit la bonne question est qu'est-ce qui ne va pas changer dans les 5 ou 10 prochaines années? Et il dit ensuite, toute l'énergie que vous investissez dans ces choses aujourd'hui rapporteront toujours des dividendes dans 10 ans. Et donc, si vous vous demandez pourquoi Amazon investit aujourd'hui dans une société qui fait de l'alimentaire bio, une chaîne de supermarchés, etc., je pense que vous avez en grande partie la réponse. Quoi qu'il arrive dans les prochaines années, on aura toujours besoin de manger. Alors bien sûr, il y a une vision stratégique autre, hein, c'est que par rapport à ces livraisons en quelques heures et commander de l'alimentation sur le site et la livraison en quelques heures, c'est un sacré réseau qu'il est en train de créer comme ça. Mais on voilà, il n'est pas parti. Pourtant, ça barotte, hein, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace lui aussi. Enfin, il a des projets de ce type-là, hein, ou Mars, ou je sais plus quoi. Donc quelle aventure spatiale il a lancé. Mais ça, c'est sa passion, quoi. Le cœur de son entreprise. Lui, voilà, il a des investissements qui sont vraiment dans ce qu'on appellerait du dur, etc., sur des choses qui ont du long terme, et en fait, il l'a jamais caché, il l'explique très clairement. Alors, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de voir comment une entreprise s'est pensée sur... En fait, il n'y a pas... c'est pas les 10 commandements, quoi, c'est pas 20 règles, 30 règles, c'est pas un bouquin imbouffable. La vidéo, elle doit faire 7-8 minutes. où il explique ça d'une manière très claire, il parle pas très vite, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il suffit de quelques règles très très simples pour se donner une ligne de conduite, et puis essayer de l'appliquer, et qu'elle soit compréhensible. Alors qu'elle soit compréhensible, bien sûr, quand vous êtes tout seul, mais incompréhensible par vous, mais qu'elle soit facile à la garder en tête. C'est-à-dire que, moi je dis, si vous devez faire un schéma en disant, ben, il y a trois ou quatre solutions différentes, qu'est-ce qui doit passer si vous avez des flèches dans tous les sens, c'est pas bon, quoi. Il faut que ce soit assez, assez logique, comme ça. Moi, par exemple, sur Cyberbounia, il y a une règle que je m'étais appliquée, mais qui est une règle qui marche depuis le site à 17 ans. Et il y a une règle que je me suis appliquée, c'est de dire, ma règle principale dans le contenu quand je le choisis, notamment dans tout ce qui est agenda des spectacles, parler d'un événement qui va se passer, c'est donner envie aux gens d'y aller quelque part, de voir et de prendre le risque quelque part que le spectacle soit peut-être pas bien, mais prendre aussi le risque que finalement le spectacle soit génial, plutôt que de leur faire regretter d'avoir loupé un spectacle qui était génial, comme le font souvent la presse papier, où ils font le lendemain, ils vous montrent les photos du concert, mais ils en ont plus parlé après, parce que ça correspond à du remplissage de papier, à faire les photos qu'ils ont, etc., plutôt que d'en avoir parlé avant. Moi, je trouve, en fait, que l'essence même de ce que je voulais faire, c'était de dire, bah, voilà, je vais donner aux gens l'occasion d'aller voir quelque chose. Alors, des fois, il y a eu des loupés, hein, j'ai un souvenir, par exemple, d'avoir fait un article sur David Hallyday, un concert de David Hallyday, en disant ça va être génial, et puis en fait, c'était nul, mais on y était nous, donc je peux vous dire à quel point c'était nul, etc. Mais si ça avait été génial, en fait, les gens, ils se seraient allés et ils auraient passé un moment génial, quoi. Bon, après, moi, il faut que je l'assume quand c'est nul, mais ça s'assume relativement facilement. L'autre leçon qu'on peut... Donc voilà, vous devez vous mettre des règles comme ça, etc., mais quelques règles qui sont simples. Un autre élément qu'on pourrait aussi se dire, c'est que finalement, si on prend ces critères d'investissement, on pourrait. Je vous ai parlé l'autre jour du contenu un peu de longue traîne, l'evergreen content, c'est-à-dire des contenus qui ont de la durée de vie assez longue. C'est assez intéressant parce que notamment, on pourrait se dire que si vous n'avez pas beaucoup de temps pour créer beaucoup de contenu, pour publier beaucoup de contenu, c'est pas la peine de faire de la course à de l'actualité qui est périssable en quelques minutes, en quelques heures, etc. Ça, c'est ce que font les grands médias. J'étais épaté, l'autre jour, je sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est sorti sur l'huile de coco, ne serait pas aussi pleine de bénéfices, etc. Je cherche un article. Ça part d'un article aux États-Unis, d'une étude américaine, il y a des milliers d'articles aux États-Unis, des milliers d'articles en France. Ils ont répliqué ça à une vitesse, mais folle. En fait, il y a des études qui ont montré qu'en quelques secondes, une information publiée quelque part est répliquée dans le monde entier, mais sans aucune réflexion, etc. Si vous voulez jouer ce jeu de répliquer l'information aussi vite que les autres, en fait, le seul truc dans lequel il faut investir, c'est un robot, mais humainement, vous ne pourrez jamais faire ça. Ou alors, c'est vraiment, vous avez une armée de journalistes qui sont capables de faire ça, mais je pense pas que vous écouteriez ce podcast tout de suite, vraiment pour prendre cette décision-là. Si vous avez peu de temps à faire, ce que je vous avais dit, c'était de dire, il faut faire un contenu qui ait une durée de vie qui soit assez longue. Assez longue, c'est la question que vous posez aujourd'hui, c'est... Peut-être vos clients potentiels, vous pensez à vos clients, quels sont ceux que je vise, à qui s'adresse cette information-là, les clients existants et potentiels, et leur proposer justement des choses qui leur serviront aujourd'hui, mais aussi demain, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans et autres. Vous voyez, la vidéo dont je vous parle, elle date de 2009, et elle est encore valable. On peut expliquer avec une vidéo de 2009, finalement... d'une part, il montre qu'il a tenu ses promesses la plupart du temps, mais en plus, ce qu'il a appliqué à l'époque en 2009 pour Zappos s'applique pour Whole Foods, etc., et ça continue comme ça. Donc, appliquez-vous aussi à créer des choses qui durent. Et des choses qui durent, il y en a plein, et notamment une chose qui dure dans le temps, c'est la marque. J'en reparlerai relativement souvent, parce que ce qu'on doit construire sur Internet, finalement, beaucoup... c'est pas utiliser un réseau social plus qu'un autre, c'est pas dire tiens est-ce que je vais sur Facebook, est-ce que je vais sur Twitter, etc. C'est comment je crée une marque avec un nom, ça peut être un logo, mais un logo ça change, mais un nom, une marque personnelle quoi, votre nom, votre prénom, si vous travaillez dessus, ça se construit dans le temps, qu'on vous reconnaisse dans le temps, etc. Et ça, pensez aux auteurs par exemple, il y a plein d'auteurs où vous achetez le bouquin parce que vous savez que la marque de cet auteur là, le style vous plaît, etc. Et donc La marque est fondamentale dans tout ça, surtout quand tout bouge vite autour de vous. Finalement, qu'est-ce qui reste? C'est la marque. Et les grandes marques, quand vous regardez bien, celles qui ont une vraie puissance, un vrai appui, c'est des marques qui sont construites sur des valeurs qu'on sait reconstruire facilement dans le temps. Alors, on reparlera beaucoup de la marque parce que je vous parlerai, et je vous l'ai dit, je vous parlerai notamment de la manière de réfléchir à la marque personnelle. Mais il y a d'autres éléments, par exemple, on pourrait dire le nombre d'abonnés à une newsletter. Enfin, quand vous avez des gens qui sont abonnés pendant plusieurs mois, plusieurs années, etc., aux informations que vous envoyez, bah, ça constitue un capital dans le temps qui est important. Et en fait, on aurait plein de choses qu'on pourrait construire comme ça dans le temps. Alors, sur le web, ça va vite, hein, mais les prédictions actuellement disent qu'il y aura bientôt plus de pages web, que les robots vont tout remplacer, etc. Enfin, voilà. Vous pourriez faire la course à toutes ces informations-là, etc., lancer des bots, etc. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est en train de faire des bots sur Messenger, Google ne marche plus, que la page web ne marche plus, que le newsletter ne marche plus, que les bons vieux réseaux sociaux... Moi, j'ai des étudiants l'autre jour, ils disent « Ah, mais Facebook, c'est dépassé, c'est nul, je préfère Instagram, Twitter, c'est mieux, etc. » Mais en fait, la bonne page, vieille page Facebook, elle est peut-être ancienne, mais si elle vous apporte de la visibilité, si vous apporte des visiteurs, des ventes, etc., il n'y a pas de raison de la bazarder comme ça, juste parce que peut-être elle n'apparaît pas à la mode pour quelques jeunes qui vous feraient des remarques là-dessus. Donc voilà. Et puis bien sûr, la leçon la plus importante, hein, c'est de penser aux clients, à vos clients, aux clients potentiels, aux gens à qui vous voulez parler, que vous voulez viser, que vous voulez convaincre, toutes ces personnes-là, parce que finalement, si vous faites quelque chose sur Internet, le sujet de ce podcast, c'est vraiment de dire, mais qu'est-ce que vous... comment vous allez parler à ces clients-là et comment vous allez les convaincre de vous faire confiance. Faut penser à eux et il faut les avoir en obsession. Quelle est l'information qui leur semblera la plus importante? Qu'est-ce que vous devez leur donner? Quel est le service que vous devez leur rendre? Qu'est-ce qui va leur apporter de la satisfaction et qu'est-ce qui va leur apporter du dividende à eux sur le court terme? Plutôt qu'à vous, voilà, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui leur apporte à eux un dividende, une satisfaction? Et ensuite, derrière, eh ben, vous verrez qu'en construisant ça, ça devrait vous apporter, mais peut-être sur du long terme, aussi des retombées. Mais, bien sûr, pour penser à son client, il y a une chose à laquelle il faut penser vraiment, c'est le définir. Qui est mon client? Qu'est-ce qu'il veut? De quoi a-t-il besoin? Etc. Et ça sera justement un sujet dont on parlera très très vite. Voilà, cet épisode se termine. Je vous remercie de l'écoute. Je vous remercie aussi... de vos remarques, de vos commentaires, etc., que vous pouvez me faire. Le podcast, je vous l'avais dit, est maintenant bien sur iTunes, il a même sa nouvelle petite icône, il a changé de catégorie, puisqu'il est plus en technologie, mais il est en marketing, mais bon, si vous êtes abonné, vous vous en rendrez pas compte. N'hésitez pas à aller mettre une petite note, un petit commentaire, ou m'envoyer un petit mail, tout ce que vous voulez, et moi je vous dis à demain. Ciao.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.